Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations. Pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens, Saint Pilice, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, Père du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, aujourd'hui, si Dieu veut, nous allons terminer le traité de l'espérance. Donc, nous en sommes à la seconda secundae, questions 17 à 22. Donc, il reste à traiter les questions 20, 21 et 22 avant d'attaquer le traité sur la charité. Donc, on est dans les vertus théologales. Puis ensuite, saint Thomas d'Aquin va parler des vertus cardinales. Je vous rappelle la différence essentielle qui existe entre les vertus théologales et les vertus cardinales. Les vertus théologales, c'est s'appuyant sur Dieu directement, sont pour Dieu, pour objet, donc peuvent augmenter à l'infini. Alors que les vertus cardinales, elles, donc les vertus théologales augmentent à l'infini, peuvent augmenter à l'infini, alors que les vertus cardinales s'établissent dans un juste milieu. Trop peu ou trop. Cependant, dans la façon de travailler de saint Thomas, ici, il va quand même parler du manque donc de l'espérance, au niveau de l'espérance, des vertus théologales de l'espérance, le manque d'espérance et l'excès d'espérance dans un mauvais sens. Le manque d'espérance, il appelle ça le désespoir, et l'excès d'espérance, c'est la présomption. Bon, et c'est des points sur lesquels il faut bien insister parce que je pense que ce sont des tentations assez fréquentes chez nos fidèles, surtout le désespoir. Puis les situations actuelles des hommes d'église, on a de quoi être désespéré. La présomption peut aussi nous tenter dans le sens que un moyen de lutte contre l'espérance, contre le désespoir, c'est une certaine présomption, mais une certaine présomption qui est bonne quand elle est basée sur Dieu, mais si elle est basée sur nos propres forces, elle est extrêmement dangereuse. Alors, voyons un petit peu donc ces deux questions, 20 et 21. Donc, sur le polycopier, j'en suis à la page 93. Donc, la deuxième partie, c'est très court sur le polycopier, il n'y a que 3-4 paragraphes. Donc, sur la vertu d'espérance. Donc, saint Thomas va parler du désespoir, donc l'absence d'espérance ou le manque d'espérance. Commençant par se poser la question, savoir si le désespoir est un péché. Évidemment que dès qu'on parle de désespoir, il faut penser au désespoir de Judas. Dans ce sens-là, c'est un péché. Il y a un désespoir qui n'est pas un péché quand c'est simplement une tentation. Il y a une certaine forme de désespoir chez notre Seigneur Jésus-Christ au Jardin des Oliviers quand il est dit « Mon âme est triste à en mourir ». Parce que le premier signe du désespoir, c'est la tristesse, toujours. La tristesse, mais le désespoir n'est pas toujours un péché. Il n'y a pas eu de péché, bien sûr, chez notre Seigneur Jésus-Christ, qui étant Dieu ne peut pas pécher. Cependant, il y a eu une désolation. Bon, une désolation, une première étape, si vous voulez, du désespoir, c'est la désolation. Bon, la désolation n'est pas péché. Il y a des tas de saints qui ont été en désolation, parfois en toute leur vie, une bonne partie de leur vie, c'est pas pour ça qu'ils ont péché. D'accord ? Alors, le désespoir est-il un péché ? Donc, saint Thomas va étudier un petit peu ça. Donc il parle, il dit que le désespoir est un principe de péché, c'est-à-dire que c'est une faiblesse dangereuse qui va amener à toute une série d'autres péchés. C'est comme une faille, si vous voulez, qui s'ouvre dans le mur de protection autour de l'âme. Imaginez un donjon qui est protégé par un rempart, il y a une faille qui s'ouvre dans le rempart, et si on ne s'en occupe pas très vite, eh bien la faille va s'agrandir, va permettre le passage de l'ennemi. Bon. Et donc il va citer saint Paul aux Éphésiens, le désespoir les a livrés à l'impudicité, à l'avarice et à toutes sortes de corruptions. Donc le désespoir, surtout, la première conséquence du désespoir, on va voir ça, c'est la perte de confiance en Dieu. perte de confiance en Dieu. Et dans certains cas, le désespoir non seulement va commencer par une perte de confiance en Dieu, mais aussi va pousser à un excès de confiance en soi-même. Donc le désespoir, très souvent, va amener à la présomption, justement parce qu'on se décourage. Mais encore une fois, il faut pas penser que toute forme de désespoir est un péché. Je vous l'ai déjà dit, le désespoir, s'il est au début, qui est en général représenté par une forte désolation, eh bien, n'est pas un péché. Des saints, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, a eu des désolations très très fortes, proches du désespoir dans son couvent, justement à cause du fait qu'elle était très très liée à ses sœurs, qu'elle voyait autour d'elle, qui étaient dans le même couvent qu'elle, elle ne pouvait pas leur parler, elle a eu beaucoup beaucoup de mal avec ça. Bon. Donc, tout mouvement, dit Saint Thomas, conforme à une idée fausse, est mauvais en soi et constitue un péché, au moins un péché matériel. Si je suis une idée fausse sans savoir qu'elle est fausse, c'est une idée, c'est un péché matériel. Si je suis une idée fausse en sachant qu'elle est fausse, le péché de matériel devient formel. Donc, tout mouvement conforme à une idée fausse est mauvais en soi et constitue un péché. Et ensuite, il va expliquer... Notre esprit est dans le vrai quand il pense que Dieu, auteur des hommes, accorde pardon aux pécheurs repentants. Et là, il va citer Ézéchiel. Je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux qu'il se convertisse et qu'il vive. Donc, le danger du désespoir, c'est que le désespoir va faire perdre confiance en la miséricorde de Dieu. Et une fois que la miséricorde de Dieu est éliminée dans une âme, l'âme va tomber en chute libre, littéralement. Donc il faut bien se rappeler qu'il y a deux choses qui travaillent ensemble. Dieu est à la fois parfaitement juste et à la fois parfaitement miséricordieux. Et les deux choses ne sont pas incompatibles chez lui, ne sont pas contradictoires chez lui. Donc Dieu est tout à fait juste tout en étant miséricordieux. Et dans sa miséricorde, il est juste et dans sa justice, il est miséricordieux. Ce qui est pour nous presque impossible à faire. Un homme peut très difficilement couper les deux choses. Donc... La plus belle, c'est ce que disent tous les pères de l'Église, et Saint Alphonse de Ligouri, des passages magnifiques sur le sujet, vous l'explique bien que le plus grand acte de Dieu, c'est de pardonner aux pécheurs repentants. Et il dit, il donne comme exemple le pécheur qui se convertit juste avant de mourir, par exemple, c'est le cas de Dismas, le bon larron. Il dit, c'est un plus grand acte pour Dieu de pardonner aux pécheurs juste avant la mort que de créer le ciel et la terre. Et donc, il le dit là expressément, donc. Notre esprit dans le vrai quand il pense que Dieu accorde le pardon aux pécheurs repentants. Alors attention, il ne faut pas oublier le mot repentant. Parce que l'Église a toujours enseigné, le bon Dieu pardonne aux pécheurs repentants. Les modernes disent, le bon Dieu pardonne les pécheurs, point. Attention, c'est comme dans la conversion de Sainte Marie-Madeleine. Allez, vos péchés sont pardonnés, allez et ne péchez plus. Et c'est cette partie, dernière partie, qui est mise complètement au rencard par les modernistes qui n'en parlent plus du tout. Et Dieu pardonne les péchés à condition qu'il sache, en tant que Dieu, il sait tout. Donc il sait que cette personne va prendre les moyens pratiques pour ne pas retomber. C'est-à-dire surtout éliminer les occasions prochaines volontaires de péché mortel. Bon. Ça ne veut pas dire que la personne ne va jamais retomber, malheureusement. Quand je dis au bon Dieu, je vous demande, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre Sainte Grâce de ne plus vous offenser, de faire pénitence. Bien, la personne qui dit ça même de tout son cœur sait très bien que malheureusement, on est tous des pécheurs et que même le juste péchant cette fois, on risque de retomber nous-mêmes. Donc, là, il faut faire très attention à ça parce que souvent, les gens qui comprennent mal ces choses-là disent mais la preuve du vrai repentir, c'est qu'on ne retombe plus jamais. C'est faux. Rappelez-vous l'exemple typique de Saint-Pierre. Saint-Pierre qui demande à notre Seigneur, qui vient de parler un peu de la confession, combien de fois je dois pardonner aux pécheurs cette fois. Et c'est notre Seigneur de répondre, non pas cette fois, mais 70 fois cette fois. Donc, le bon Dieu le sait. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Jamais se désespérer. Souvent, les gens se désespèrent. M. l'abbé, dernière confession, c'était il y a un mois, j'ai promis au bon Dieu de ne plus jamais retomber dans telle faute. Et puis, M. l'abbé, je n'étais pas sorti du confessionnal. Trois jours plus tard ou une semaine plus tard, paf, je retombe. Alors, c'est désespérant. Mais c'est là, il faut bien expliquer. Attention, le bon Dieu est plein de miséricorde. Est-ce que vous avez pris les moyens pour Ben oui, j'ai pris les moyens pendant 2-3 jours, et puis au bout de 3 jours, j'ai commencé à laisser un peu tomber les choses, et puis je me suis trouvé dans des occasions de péché, et puis paf, je suis tombé. Bon, le bon Dieu pardonne, du moment que vous regrettez vos péchés, du moment que vous venez au confessionnal avec la contrition au moins imparfaite, c'est le minimum syndical, c'est la contrition imparfaite, c'est regretter ses péchés par peur de l'enfer. Du moment que vous avez au moins ça, le bon Dieu pardonne. À du moment qu'il y a la contrition, l'accusation, expliquant les circonstances qui changent l'espèce du péché, et puis la réparation. Du moment qu'il y a contrition, accusation et réparation, Dieu pardonne aux pécheurs repentants. Et non seulement il pardonne aux pécheurs repentants, mais l'Église enseigne que le bon Dieu, en pardonnant aux pécheurs repentants, va transformer une contrition imparfaite en une contrition parfaite. Donc c'est la foi catholique qui enseigne que toute personne qui se confesse avec une contrition imparfaite, mais de bonne volonté, va recevoir la grâce de la contrition parfaite. Qui va sortir du confessionnal avec l'amour du bon Dieu en son âme. D'accord ? Notre esprit, au contraire, dit saint Thomas, est dans le faux quand il juge que Dieu refuse le pardon aux pécheurs pénitents ou qu'il n'attire pas les pécheurs par la grâce justifiante. Donc, on peut dire que la maladie la plus grave, pour un catholique surtout, c'est de ne plus croire en la miséricorde du bon Dieu. Et le rôle du démon, c'est surtout le travail du démon, c'est d'essayer de détruire la confiance en la miséricorde infinie du bon Dieu. Et quand cette miséricorde disparaît, quand cette confiance en la miséricorde du bon Dieu disparaît, il n'y a plus aucun espoir. C'est le péché de Judas. On dit toujours que on se demande pourquoi Judas n'a pas été pardonné. C'est pas qu'il n'a pas été pardonné, c'est qu'il s'est mis dans des dispositions telles où il était impardonnable. On compare souvent le péché de Judas et le péché de Saint-Pierre, strictement parlant, des deux côtés, un cas à l'apostasie. Hein. Saint-Pierre qui dit 3 fois « Je ne connais pas cet homme dont vous me parlez » à une servante qui l'accuse d'être un ami de notre Seigneur. Donc c'est un péché d'apostasie. Judas, c'est pareil. Donc il vend son maître, c'est pareil. Saint-Pierre, d'un certain côté, a vendu son maître pour avoir la paix et pas être persécuté, pas passer sur la croix lui aussi. Eh bien, la différence entre Judas et Saint-Pierre, c'est que Saint-Pierre a cru en la miséricorde du bon Dieu, donc Saint-Pierre a cru en la miséricorde du bon Dieu, mais Judas a perdu l'espérance de la miséricorde. C'est-à-dire, en gros, Judas a dit « Mon péché est trop grand pour être pardonnable. » Puisque mon péché est trop grand pour être pardonnable, c'est que Dieu n'a pas le pouvoir de pardonner mon péché. Si Dieu n'a pas le pouvoir de pardonner mes péchés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu parce qu'il ne peut plus pardonner mon péché. Et donc c'est une négation de la divinité de notre Seigneur. Vous voyez? Et là, il faut faire très attention parce que c'est... je pense que surtout aujourd'hui, il faut beaucoup plus parler de la miséricorde que de la justice. Il faut parler des deux. Ce serait un crime de parler pour un prêtre, surtout de ne parler que de la miséricorde en éliminant la justice. Ça, c'est un peu le modernisme. Mais c'est un autre crime de parler que de la justice et d'oublier complètement la miséricorde. C'est pour ça que quand je prêche ces exercices Saint-Ignace, je ne mets pas du tout les cas où des gens devaient partir, par exemple, après les confessions. Pour des raisons professionnelles, si vous avez, moi je peux venir 3 jours, est-ce que je peux partir juste après les confessions générales? Je dis, mais attention, c'est quand même très dangereux ce que vous allez faire, parce que vous allez avoir que la première partie de la retraite, qui est la partie purgative. Donc vous allez avoir l'impression que tout l'enseignement de l'Église, c'est sur le péché, les conséquences du péché, la mort, les jugements, etc. Et donc la plus belle partie des exercices, c'est la deuxième. La deuxième partie des exercices, avec les méditations sur le Christ roi, les trois classes, les 2 étendards, qui montrent justement la miséricorde incroyable du péché. La miséricorde incroyable du bon Dieu à l'égard du pécheur pénitent. D'ailleurs, on voit très bien que certains des plus grands saints sont des saints qui ont été des grands pécheurs dans le passé. Hein, par exemple, saint Augustin, par exemple, sainte Marie-Madeleine. Hein, certainement une des plus grandes saintes de l'histoire de l'Église, c'est sainte Marie-Madeleine. Hein, c'est notre Seigneur qui a dit, je crois, sainte Brigitte, dans une des apparitions de sainte Brigitte, qui parle justement des trois plus grands saints du ciel. Et il parle de la Sainte Vierge, sa mère évidemment, sainte Marie-Madeleine et saint Jean-Baptiste. Bon, il y en a d'autres, mais enfin, c'est comme ça. Donc le désespoir est un péché dans le sens que l'acte de l'espérance est conforme à un jugement vrai et louable et vertueux, dit saint Thomas, Mais l'acte du désespoir conforme à une idée fausse est vicieux et coupable. Le désespoir est donc un péché. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les péchés de désespoir ne sont pas les péchés les plus graves. Les péchés d'orgueil sont bien plus graves, mais c'est les péchés les plus dangereux. Parce que quand on ferme son âme par le désespoir, c'est terrible. Moi, j'ai déjà eu l'occasion, malheureusement, c'était comme ça, le bon Dieu permis, m'occuper de gens en train de mourir, à l'hôpital, par exemple, qui étaient tombés dans le désespoir. C'est très, 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 très difficile. Parce que ça passe comme l'eau sur les plumes d'un canard, on leur parle de la miséricorde du bon Dieu, et puis ils ne voient plus rien, quoi. Parce qu'ils sont ancrés dans leur désespoir. Et il faut leur faire comprendre, il faut bien leur expliquer la phrase de notre Seigneur: je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Les malades spirituels, c'est quoi? C'est le pécheur. D'accord? Donc, l'acte du désespoir, conforme à une idée fausse, est vicieux et coupable. Donc, le désespoir est un péché. Alors, deuxième article de la question 20. Le désespoir peut-il exister sans l'infidélité? Et la réponse est oui. Le désespoir n'est pas toujours accompagné de l'infidélité. Pourquoi? Parce que l'espérance est postérieure à la foi. On ne peut pas avoir d'espérance sans la foi. La foi peut survivre à sa destruction. Heureusement d'ailleurs. Parce que si on perdait la foi après chaque péché, ben, on ne pourrait plus se confesser. On a besoin d'avoir la foi pour se confesser. On ne peut pas se confesser sans foi, c'est impossible. Bon. Donc, les deux choses sont très importantes. Donc, même si j'ai commis des péchés graves, la foi ne va pas disparaître. Alors, voilà ce que dit saint Thomas. L'espérance est postérieure à la foi. La foi peut survivre à sa destruction. En ôtant ce qui suit, on n'ôte pas ce qui précède. Sans doute, celui-là serait infidèle qui croirait que la miséricorde de Dieu n'est pas infidèle. N'est pas infinie. Ça, c'est le péché de Judas. Mais un homme... en conservant sur la miséricorde divine et sur la rémission des péchés une croyance conforme à la foi, peut s'imaginer que dans l'état où il est, il ne doit pas espérer en Dieu. Comme cette erreur particulière ne détruit pas absolument la foi, le désespoir peut exister sans l'infidélité. Alors attention, là, il prend le terme d'infidélité dans le sens d'absence de foi, infides. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le péché mortel détruit bien sûr la charité, qui est l'amour du bon Dieu, mais ne détruit pas la foi et l'espérance. Sauf certains péchés contre la foi directement. Pour ça, par exemple, les lectures régulières de livres qui vont contre la foi catholique peuvent amener, à bout d'un certain temps, à une disparition de la foi. Des doutes volontaires, ensuite disparition de la foi. Mais en général, on ne perd pas la foi comme ça. C'est fixé au corps. La foi est donnée par le baptême, avec la charité. Le baptême donne la charité. Mais comme la charité ne peut pas exister sans la foi et l'espérance, avec la charité, il y a aussi l'espérance et la foi qui vont illuminer l'âme du nouveau-né, du nouveau baptisé. Alors, troisième article de la question 20. Le désespoir est-il plus grand des péchés? Bon, ça, c'est évident. La réponse est négative. Pourquoi? Parce que les péchés, encore une fois, par exemple, péché d'orgueil, on verra ça plus tard, les péchés qui s'opposent directement à la charité sont plus graves que les péchés qui s'opposent directement à la foi ou à l'espérance. Pourquoi? Parce que des trois, dit saint Paul aux Corinthiens, des trois, la plus grande des trois vertus, foi, espérance, charité, la plus grande, c'est la charité. Donc si on pêche contre la plus grande vertu, c'est plus grave que de pêcher contre la grande vertu qui est plus petite. Et voilà ce que dit saint Thomas dans cet article 3. Les péchés opposés aux vertus théologales sont en eux-mêmes plus graves que les autres parce qu'ils impliquent directement l'éloignement de Dieu. L'infidélité, le désespoir et la haine de Dieu sont des péchés opposés aux vertus théologales, sont en conséquence plus graves que les autres péchés mortels. Toutefois, la haine de Dieu et l'infidélité sont en soi plus graves que le désespoir. Bon, la haine de Dieu, évidemment, va entraîner en elle-même, si vous voulez, une mauvaise volonté bien plus grave que dans le désespoir, qui est plus quelque chose de négatif. La haine de Dieu, c'est quelque chose de positif. Positivement, je déteste Dieu. Donc, la haine de Dieu et l'infidélité sont en soi plus graves que le désespoir. L'infidélité, dans le sens, encore une fois, de perte volontaire de la foi. Car l'infidélité ne croit pas à la vérité divine et la haine de Dieu met la volonté de l'homme en opposition avec la souveraine bonté. Donc la haine de Dieu détruit directement la miséricorde. Au lieu que le désespoir consiste seulement à ne plus attendre la participation à cette divine bonté. Donc, saint Thomas va conclure cet article en disant: l'espérance nous retire du mal et nous anime à la poursuite du bien. On voit donc ceux qui l'ont perdu s'abandonner bientôt à tous les vices et s'éloigner de toutes les bonnes œuvres. Faire un crime, nous dit saint Isidore, c'est la mort de l'âme. Désespérer, c'est descendre en enfer. Oui. Donc on voit très bien, là, il faut comprendre comment le démon travaille. On dit, c'est saint Augustin, je crois qu'il dit ça, que le démon, ce qu'il veut faire, entraîner quelqu'un vers, dans la fange du péché, de l'enfer, vers l'enfer, il va enlever la honte de l'âme pour qu'elle puisse commettre des péchés multiples, péchés mortels multiples. Et une fois que les péchés sont commis, qu'est-ce qu'il fait le démon? Il va remettre la honte sur l'âme pour qu'elle ne puisse plus les confesser. Oui. Moi, je dis toujours ça aux personnes qui me disent, par exemple, monsieur l'abbé, j'ai honte de dire ce que je vais devoir dire. Je réponds toujours, écoutez, si vous n'avez pas eu honte de commettre le péché, il n'y a aucune raison d'avoir honte de l'accuser. Au contraire, si autant vous avez été misérable en commettant ces péchés graves, autant vous redevenez ami de Dieu en accusant ces péchés graves. Donc, il faut avoir honte du péché, pas de l'accusation du péché. Au contraire, l'accusation du péché est bien plus grande. Et plus le péché est honteux, plus l'accusation de ce péché honteux est un acte de vertu en tant que tel. Il y en a qui ouvrent la porte à la charité. Hein? C'est pour ça que saint Thomas explique bien que le désespoir n'est pas en soi le plus grave des péchés, mais est un péché très dangereux parce qu'il ouvre la porte à toute une série de péchés. C'est exactement ce qu'il dit là. L'espérance nous retire du mal et nous anime à la poursuite du bien. On voit bien que ceux qui l'ont perdu, cette espérance, s'abandonnent bientôt à tous les vices et s'éloignent de toutes les bonnes œuvres. Donc, si le démon peut mettre le péché d'espérance dans une âme, si vous voulez, il va détruire toutes les protections de l'âme. Toutes les protections vont sauter à cause du péché de désespoir. Donc, si le démon peut mettre, je reprends ma phrase, si le démon peut mettre dans une âme le péché de désespoir, il a tous les moyens de protection. Et c'est pour ça que le désespoir est tellement dangereux. Encore une fois, ce n'est pas le plus grave. Mais sortir des gens du désespoir, c'est terrible. Moi, j'ai déjà eu des cas comme ça où il faut beaucoup, beaucoup de patience et de santé pour sortir des gens du désespoir. Les gens sont dans le désespoir le plus complet. On voit surtout c'est des gros, gros pécheurs qui ont méprisé la charité du bon Dieu et l'amour du bon Dieu pour eux pendant des années et des années. On voit très bien, par exemple, chez Voltaire. La mort de Voltaire, s'est moqué de Dieu plusieurs fois, alors que Voltaire avait reçu une éducation catholique, il avait été élevé chez les sœurs, parce que c'était un orphelin, ou un orphelin abandonné par ses parents, je ne sais plus. Donc il avait été élevé chez les sœurs, il avait reçu une éducation catholique tout à fait correcte. Si mes souvenirs sont exacts, il avait fait ses études supérieures chez les jésuites, donc il avait beaucoup, beaucoup reçu, et il savait très bien ce qu'il faisait. Donc il a commencé à publier tous ses pamphlets contre l'Église catholique, et plusieurs fois il a eu des maladies graves, et donc alors, il s'est péché de se précipiter au confessionnal pour demander pardon, mais c'était de l'hypocrisie. Dès qu'il sortait de la maladie, il retombait dans ses mêmes erreurs. Et au moment de mourir, il était à Paris, et il suppliait, il avait ses amis avec lui, tous les encyclopédistes, donc qui avaient travaillé avec eux à la corruption de la foi catholique en France, qui étaient à côté de son lit et qui étaient à la porte pour empêcher le prêtre de venir, pour être sûr que le prêtre ne pourrait pas être prévenu. Et Voltaire est mort dans le désespoir le plus complet. Et en plus, complètement fou. Vous voyez, donc ça, il faut faire très très attention à ça. Et se méfier de ce péché de désespoir, surtout chez les grands malades. Ou les grands pécheurs. Quand on connaît quelqu'un de notre famille qui a beaucoup offensé le bon Dieu, qui commence à péricliter au niveau de la santé, il faut beaucoup leur parler de la miséricorde du bon Dieu. Et c'est pas trop le moment de leur parler de la justice de Dieu, parce que vous allez faire plus de dégâts qu'autre chose. Il faut au contraire leur parler de la miséricorde. Et c'est triste, moi j'étais vraiment peiné de voir à plusieurs reprises des catholiques élévacantistes ou des catholiques de tradition, si vous voulez, qui pensent que littéralement un prêtre qui parle de la miséricorde est un prêtre qui est un libéral. Alors, en ce moment, il faut dire que notre Seigneur Jésus-Christ est un libéral, parce que les paraboles de la miséricorde, il y en a pas mal dans l'Évangile. Une bonne partie des Évangiles, c'est sur la miséricorde. Hein? La miséricorde du bon Dieu, on voit très bien sur, par exemple, les béatitudes, c'est la miséricorde. Hein? Tout le sermon sur la montagne, c'est la miséricorde. Donc, de prétendre que parler de la miséricorde, c'est du libéralisme, c'est grave. Ce qui est vrai, c'est que parler de la miséricorde En coupant complètement la miséricorde de la justice, oui, c'est du libéralisme. De parler de la miséricorde, un miséricordieux, un prêtre miséricordieux qui pratique la miséricorde dans son, surtout au tribunal de la pénitence, ça ne veut pas dire que c'est un prêtre qui va être un libéral et qui va oublier la justice de Dieu. Parce qu'on pratique la miséricorde pour amener le pécheur justement à suivre les commandements du bon Dieu. D'accord? Alors, donc là, il faut faire très attention. Ce n'est pas, donc c'est la conclusion de saint Thomas, donc ce n'est pas le plus grave des péchés, hein, mais c'est un péché très dangereux parce qu'il ouvre la porte à toute une série d'autres vices. On voit que ceux qui ont perdu la miséricorde, qui ont perdu l'espérance, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui ont perdu l'espérance, on verra chez eux bientôt tous les vices et on va les voir s'éloigner de toutes les bonnes œuvres. Vous voyez? La gravité des péchés contre l'espérance, c'est que les péchés contre l'espérance vont faire disparaître toutes les, tous les acquis passés, hein, tous les talents qui ont été assimilés, accumulés par l'âme, en état de grâce pendant parfois des années, tout ça va être complètement. Tous les mérites vont disparaître. Article 4 de la question 20, le désespoir vient-il de la paresse? Bon. Là, c'est très intéressant, il faut bien méditer sur ce que dit saint Thomas. Saint Thomas dit que le désespoir, en fait, est une conséquence de deux formes de péché, la luxure, dans tous les péchés contre le sixième et neuvième commandement, et la paresse. La paresse, en fait, il parle surtout ici de la paresse au niveau spirituel, c'est ce qu'on appelle l'acédie. L'acédie, en fait, comment ça se passe? C'est que le premier signe en général, c'est la tristesse. La tristesse. La tristesse dans une âme va mener facilement au désespoir si elle n'est pas contrôlée. Le désespoir va entraîner le dégoût de la prière et le dégoût de la prière va entraîner le dégoût des sacrements. Donc, les quatre étapes. Première étape, la tristesse. Deuxième étape, le désespoir. Troisième étape, le dégoût. Quatrième étape, le dégoût au niveau de la prière. Et cinquième étape, le dégoût des sacrements. C'est-à-dire, à ce moment, on ne peut plus confesser. Donc, c'est comme, si vous voulez. On peut prendre une comparaison, si vous voulez, le démon, si vous voulez, va travailler comme si quelqu'un faisait perdre à un malade la confiance en son médecin. Le médecin est la seule personne qui peut sauver le malade, et quelqu'un va travailler pour faire perdre la confiance qu'on doit avoir à son médecin, dans mon sens du terme, et surtout leur faire perdre toute espérance de l'usage des médicaments, dans le bon sens du terme, bien entendu. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le démon et le désespoir. Donc, il dit bien, le désespoir provient de deux causes, la luxure et la paresse. Alors, ça semble bizarre parce que les deux choses sont complètement différentes. Tiens, mais c'est l'une ou l'autre, mais pas les deux à la fois. Mais oui, les deux à la fois. Lorsque quelqu'un ne goûte pas les biens spirituels comme des biens réels, ou qu'il ne les estime pas d'un grand prix, d'où croyez-vous que provient en lui cette disposition? Elle est le résultat des jouissances corporelles et notamment de la volupté. Et donc, qui dit volupté, dit tous les péchés de luxure. Du moment où l'homme, ça c'est très important comme phrase, du moment où l'homme s'attache aux biens impurs, il prend un dégoût des biens spirituels. Du moment où l'homme s'attache aux biens matériels, plus l'homme s'attache aux biens matériels en général, moins il va s'attacher aux biens spirituels. En plus de ça, si l'homme s'attache à des biens matériels qui sont mauvais en tant que tels, c'est le cas des biens impurs, il prend un dégoût des biens spirituels. C'est un peu le système des vases communicants, quoi, du balancier. C'est-à-dire que plus on aime le bon Dieu, moins on aime le péché. Plus on aime le péché, moins on aime le bon Dieu. Il y a un lien entre les deux. Et beaucoup de saints font remarquer que avec les biens corporels, les biens matériels, on finit par, si on en a trop, on finit par en être dégoûté. Alors qu'avec les biens spirituels, on ne peut jamais être dégoûté des biens spirituels. Plus on en a, plus on en demande, quoi.
C'est un suicide spirituel, en fait.
Voilà, c'est ça. Et c'est un signe très important qu'il faut bien surveiller, surtout les parents chez les enfants, et surtout chez les adolescents, ce qu'on appelle la CDI. La CDI, c'est la paresse spirituelle. Oui, donc il va dire, il ne met pas simplement à la luxure, il rajoute aussi la paresse. Hein. La paresse, donc il a dit d'une part. Du moment où l'homme s'attache à la luxure, aux plaisirs impurs, il prend un dégoût des biens spirituels. Pourquoi? Parce que c'est le corps qui va prendre pouvoir sur l'âme. Les biens spirituels s'attachent à l'âme, les biens de luxure, les faux biens de la luxure vont s'attacher surtout au corps. Donc c'est le corps qui va nous attirer vers le fond. Au contraire, dit-il, la paresse de son côté le conduit à ne pas croire qu'il lui soit possible d'obtenir les biens spirituels, ni par lui-même ni par autrui. Elle produit un excès de découragement qui, s'emparant de sa volonté, lui persuade qu'il est désormais incapable de s'élever à aucun bien, tant soit peu difficile à pratiquer ou à obtenir. Dans, mis, si vous voulez, au degré maximal, c'est le péché de Judas.
Oui. Est-ce que c'est dans ce sens-là, quand Jésus dit « laissez les morts enterrer les morts » Est-ce que c'est pas aussi ceux qui n'ont plus de vie spirituelle qui enterrent quelqu'un qui est déjà mort
Peut-être, je ne sais pas trop, mais... là, il parle de ceux qui sont trop attachés au bien matériel, même au bien matériel, qui sont bons, au bien matériel, pardon, qui sont bons, comme l'amour de la famille, par exemple. Mais c'est sûr qu'à une vocation, quand le bon Dieu demande à quelqu'un de le suivre, il demande aussi l'abandon de certains biens qui sont soit des biens bons, des biens qui sont tout à fait acceptables, par exemple l'amour de la famille. Alors, oui, donc ça, il faut bien comprendre ça. Une fois qu'on a compris ça, c'est plus facile au niveau de la vie spirituelle. C'est un article, à mon avis, qui est très important pour la vie spirituelle. Donc, se méfier donc, énormément du désespoir, parce que le désespoir, encore une fois, va entraîner le dégoût des sacrements, le dégoût de la prière. Hein, et cette tristesse, vous voyez, quand on parle, on dit que souvent la tristesse, c'est le début du désespoir, mais la tristesse, dans la tristesse, il y a déjà une certaine forme de dégoût de la prière. Vous voyez? Et il faut faire très attention au niveau de l'éducation, surtout des grands adolescents, ou des adolescents tout simplement, surtout des garçons. Parce que la jeune fille prie beaucoup plus facilement que les jeunes hommes. Mais quand des parents commencent à constater chez l'enfant, l'adolescent de 15-16 ans, le dégoût de la prière, faire très attention parce que ce dégoût de la prière entraîne pratiquement à tous les coups un dégoût des sacrements. Et le point, à mon avis, que les parents doivent le plus surveiller, surtout chez les jeunes garçons de 17 ans, donc à la fin de l'adolescence, c'est l'usage des sacrements. Est-ce qu'ils continuent de se confesser? Alors c'est assez délicat, hein, parce que beaucoup de parents ne font pas attention, et en voulant bien faire, ils en arrivent pratiquement à obliger l'enfant à se confesser. On ne peut pas obliger un enfant à se confesser. Un enfant, oui, un petit, éventuellement, parce qu'ils sont encore petits, mais dès qu'ils arrivent à 15-16 ans, des parents ne peuvent pas obliger un enfant de 16 ans à se confesser, c'est impossible. Si vous obligez l'enfant à se confesser contre sa volonté, il va faire une confession sacrilège à tous les coups. Hein. C'est comme les parents qui, de bonne foi, essaient d'obliger leurs enfants à communier. Alors qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant. Ils ne savent pas que parfois, le jeune homme ne peut pas communier. Il le sait très bien, donc il ne communie pas. Il faut que les parents fassent très attention à ce qu'ils disent. Mais parfois des mamans, de bonnes mamans, pourquoi tu ne communies pas? Qu'est-ce qui se passe? Il faut respecter un petit peu certaines, ce qu'on appelle le jardin secret. Le jardin secret est très important. Mais en même temps, il faut pousser l'enfant, évidemment, à continuer à garder la vie de prière, la vie sacramentelle. Parfois, la meilleure des choses à faire dans un cas comme ça, je pense, pour des parents, c'est d'en parler au prêtre. Le prêtre qui connaît bien la famille, il y a un problème, mon fils de 16-17 ans, je vois que ça fait 5-6 mois qu'il ne se confesse plus, il y a un problème. Et à ce moment-là, le prêtre peut directement en parler, et le prêtre, lui, a le droit de rentrer dans le jardin secret, ce qu'on n'a pas le droit de faire les parents. Donc ça arrive, il peut prendre la personne à part, bien sûr, le jeune homme à part, en disant, écoutez, voilà, moi je constate que depuis 6 mois, vous approchez plus de la Sainte Table, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux vous aider? Et puis souvent, je vais leur demander, je dis, est-ce que vous m'autorisez, seul avec vous maintenant, de parler de vos confessions? Bon. Et souvent, ils disent oui. Et à ce moment-là, je dis, bon, est-ce qu'il y a dans votre vie passée, dans les choses que vous m'avez accusées dernièrement, il y a 5-6 mois, est-ce qu'il y a des choses qui vous poussent à ce dégoût, vous voyez? Et donc, faire très attention, parce que un dégoût des choses spirituelles, c'est un peu, toute proportion gardée, comme quelqu'un qui serait dégoûté de la nourriture physique. Mais j'ai quelqu'un qui n'a plus envie de manger. Ça arrive, il y a des gens comme ça. Ils n'ont plus envie de manger, et ben, il va dépérir. Il y a des anorexies, c'est ça, une espèce de dégoût de la nourriture, il n'a plus envie de manger du tout. Quelqu'un qui n'a plus envie de manger du tout, c'est la mort qui arrive vite, hein, parce qu'il y a une espèce de dépérissement qui va rentrer. Hein. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, saint Thomas place comme cause du désespoir, pas simplement tous les péchés contre la pureté, mais la paresse. Et donc, il faut bien comprendre ces choses-là, c'est que plus un adulte ou même un grand adolescent est imprégné dans la, si vous voulez, est immiscé dans l'impureté, plus il devient difficile de lutter contre le désespoir. Parce que le désespoir, c'est quelque chose, un peu comme une corde au cou, si vous voulez, une corde au pied qui attire vers le bas. Imaginez quelqu'un qui est dans un sable, des sables mouvants avec un poids qui le tire vers le bas. C'est un peu ça. Et donc, faire attention aujourd'hui, surtout aujourd'hui plus qu'avant, parce que, évidemment, les péchés d'impureté maintenant sont partout. Hein. Il suffit d'ailleurs, on ne peut pas aller dans une grande ville 3 minutes sans être assailli par des mauvaises images, des images obscènes, des images impures partout, sur tous les murs, dans tous les tableaux. Ça, il faut le savoir. Hein. Et donc, il faut aussi savoir une deuxième chose, c'est que les sacrements sont certainement le sacrement de pénitence et le sacrement de la Sainte Eucharistie, les deux sont certainement les meilleurs moyens de lutter contre cette luxure, cette tentation contre la chair. Celui qui vit dans la tristesse, donc, tombe facilement dans le désespoir, tant qu'il ne sort pas de son état par un violent effort, il ne peut s'élever à des choses grandes et agréables. Abîmé dans sa douleur, il ne pense pas même au bienfait de Dieu. De là une grande tristesse qui déprime l'âme, le dégoût vient à la suite. Et le dégoût, c'est toujours la même chose, dégoût de la prière, dégoût des sacrements. En général, ça commence par la prière. Alors, je vous ai dit qu'on ne peut pas obliger un enfant à se confesser, c'est impossible. On peut le pousser, on peut parler au prêtre pour qu'il aide. Par contre, au niveau de la prière, on peut obliger un enfant à prier, à participer, par exemple, au chapelet commun. Mais c'est toujours pareil, si l'enfant est là comme une bûche pour assister au chapelet familial, parce qu'en fait, il participe pas du tout, il participe uniquement avec la voix, mais pas avec son cœur, il y a un problème. Mais souvent, des choses comme ça peuvent être réglées simplement par une bonne confession. Donc, on a vu la question 20, donc je rappelle les 4 articles qui sont très importants. C'est une question importante, cette question 20 sur le désespoir. Désespoir est-il un péché? Oui. Le désespoir peut-il exister sans l'infidélité? Oui. Le désespoir est-il le plus grand des péchés? Non. Le désespoir vient-il de la paresse? Oui. Et aussi de la luxure. D'accord? Maintenant, question 21, on avance. On va au moins terminer terminer aujourd'hui l'espérance, 21, 22, c'est très court, de la présomption. Alors la présomption, c'est l'inverse du désespoir. C'est, dit saint Thomas, se confier en Dieu, se confier en l'homme au lieu de se confier en Dieu. Bon, où il y a deux formes de présomption, on va expliquer ça. D'abord, de trop se confier en soi-même, et d'autre part, de se confier en Dieu de façon imprudente. On va expliquer tout ça. Donc, il y a quatre articles dans cette question 21 de la présomption. Donc, la présomption, article 1, la présomption se confie-t-elle en Dieu ou en la vertu propre de l'homme? Bon. L'espérance excessive que l'on a soit en sa propre vertu, soit en la vertu de Dieu et de la présomption. Donc, il y a deux faiblesses, si vous voulez. La première, c'est de trop compter sur ses propres forces, c'est la présomption, mais aussi une certaine faiblesse, une certaine danger à compter tellement sur le bon Dieu qu'on dit, bon, c'est bon Dieu qui fait tout, moi j'ai plus rien à faire. Et donc voilà ce que va dire saint Thomas. Il explique d'abord l'espérance que l'on a, soit en sa propre vertu, soit en la vertu de Dieu et de la présomption. L'espérance en notre propre vertu, premièrement. L'espérance en notre propre vertu et de la présomption, lorsque nous croyons pouvoir acquérir par nous-mêmes un bien qui dépasse nos facultés. Donc, si j'essaye de procurer par moi-même quelque chose, de me procurer par moi-même quelque chose qu'en fait je ne peux recevoir que de Dieu, c'est une espèce d'orgueil. C'est d'orgueil en fait. C'est-à-dire, je place mes propres forces tellement haut que j'en oublie la nécessité de l'aide spirituelle de notre Seigneur, de l'aide de Dieu. D'accord ? Deuxièmement, l'espérance en la puissance de Dieu devient la présomption dès que l'on attend un bien qui, quoique possible en soi, obtenir avec le secours de la puissance et de la miséricorde divine, ne l'est cependant pas dans les conditions et les bornes que l'on met à son espérance. C'est le cas d'un pécheur qui espère obtenir le pardon sans repentir ou la gloire sans mérite. Et là, on tombe dans les péchés contre le Saint-Esprit. Voyez-vous, les péchés contre le Saint-Esprit, parmi ces péchés contre le Saint-Esprit, il y a ça. Et espérer se sauver sans mérite, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Hein? espérer avoir le pardon de ses péchés sans quitter l'occasion de pécher. Ce sont aussi des péchés contre le Saint-Esprit, tout ça. Donc, saint Thomas explique bien, donc il y a deux, je répète, il y a deux possibilités de présomption. Premièrement, trop compter sur ses propres forces, ça c'est fréquent. Deuxièmement, trop compter sur Dieu, si vous voulez, en dit saint Thomas, en limitant... je reprends la phrase de saint Thomas qui est un peu complexe. L'espérance en la puissance de Dieu devient de la présomption dès qu'on attend un bien qui, quoique possible en soi, obtenir avec le secours de la puissance de la miséricorde divine, ne l'est cependant pas dans les conditions et les bornes que l'on met à son espérance. Donc, obtenir le pardon sans repentir ou la gloire sans mérite. Donc, comme quelqu'un qui espère sortir du péché tout en conservant dans la vie de tous les jours une occasion prochaine volontaire de péché mortel. Vous voyez ? À ce moment-là, ça vient de la présomption, et c'est une présomption qui entraîne des mauvaises confessions. Hein. La présomption est dangereuse. La présomption va être dangereuse parce qu'on dira « Oh bon, le bon Dieu va s'en occuper ». Il peut y avoir de la présomption aussi. Moi, je vois souvent de la présomption. Maintenant, il faut faire attention avec les jeunes, parce que c'est quelque chose de plus en plus courant maintenant. Des gens qui sont des jeunes garçons, surtout des jeunes hommes, qui sont de plus en plus présomptueux, par exemple, des catholiques très présomptueux, au niveau des dangers qu'ils prennent pour leur vie. Et tous ces sports qu'on appelle ces sports extrêmes. Voilà. Parmi ces sports extrêmes, il y en a qui sont vraiment complètement fous. Hein. Ces espèces de... Je ne sais pas comment on appelle en français. Ces espèces de... C'est ça, oui. De gens qui ont des espèces de combinaisons et en font sembler un écureuil volant. Là. Ça, c'est des choses extrêmement dangereuses. Bon, on a le droit... de prendre un certain d'affronter un certain danger, c'est une raison proportionnelle, une raison professionnelle, je sais pas moi, un pompier qui doit pénétrer dans le feu, prendre un risque énorme pour sauver quelqu'un, là c'est autre chose. Mais on n'a pas le droit de prendre des risques qui dépassent, si vous voulez, une moyenne honnête. On doit prendre quelques risques, c'est évident que si on prend aucun risque, on reste dans son... lieu, au coin du feu, et on ne fait plus rien. Hein. Mais il y a des risques qu'on n'a pas le droit de prendre. Donc, au niveau, je voyais, bon, enfin, moi, j'ai mon sport favori, c'est la varap, l'escalade, je n'en fais plus beaucoup maintenant, j'ai plus de temps, mais puis je ne suis plus tout jeune non plus, c'est difficile de faire ça tout seul. Mais je vois, par exemple, ces espèces de folies actuelles qui consistent à prendre des risques de plus en plus grands en matière d'escalade. Alors, maintenant, c'est grimper sans corde, c'est grimper sans protection, sans piton, sans aucune protection. Et puis, le plus doué, c'est celui qui arrive à passer sans corde, sans rien du tout. Et puis, résultat des courses, ils finissent tous par se tuer, vous voyez. Donc, il y a des risques qu'on n'a pas le droit de prendre. Et ça, ça touche à la présomption. Donc, faire attention, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la présomption conduit au péché contre le Saint-Esprit. Deuxième article, la présomption est-elle un péché ? Et la réponse est évidemment positive. Il est faux que Dieu pardonne à ceux qui persévèrent dans le péché ou qui glorifie ceux qui ne font pas de bonnes œuvres comme le voudraient croire les présomptueux. Bon, c'est évident que si quelqu'un garde une occasion prochaine volontaire de péché, il ne peut pas se confesser. Bon, et s'il espère obtenir le pardon de Dieu tout en gardant une occasion prochaine volontaire de péché, eh bien il joue avec le feu. Il ne saute pas seulement avec le feu, il se moque de Dieu. Ça, c'est vraiment un péché. La présomption donc, qui résulte, dit saint Thomas, de cette idée erronée, donc on est en article 2 de la question 21, et la présomption est un péché, bien qu'elle soit un moindre péché que le désespoir. Car elle convient mieux, ça c'est une phrase splendide de saint Thomas. Moi, je cite souvent cette phrase aux gens qui me disent « pour les trous de la miséricorde ». Saint Thomas dit « Il convient mieux à Dieu de faire miséricorde et de pardonner que de punir. » C'est ce que dit saint Thomas, le plus grand théologien de la foi catholique. Il est dans sa mesure d'user de clémence, le châtiment ne lui appartient qu'à raison de nos péchés. En quelque sorte, saint Thomas va jusqu'à insinuer que le bon Dieu utilise le châtiment contraint et forcé par les circonstances. Mais en lui-même, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il veut ? Quelle est la volonté divine, c'est de sauver tous les hommes. C'est pour ça que la théologie catholique dit et enseigne que de volonté antécédente, Dieu veut le salut de tous les hommes. Non, Dieu veut sauver tous les hommes de volonté antécédente. Comme il ne va pas sonner sauver les hommes sans l'utilisation de la volonté propre, de volonté conséquente, dit saint Thomas d'Aquin, eh ben, seuls vont être sauvés ceux qui sont en état de charité au moment de la mort. D'accord ? Et donc, pour ça que certains, je vois, on m'a envoyé un article là, j'ai reçu sur ma boîte internet, d'une des dernières de François, là, de Bergoglio, qui a osé dire que personne n'a le droit de dire que Judas est en enfer. C'est horrible de dire ça, parce que ça consiste à dire, tout le monde considère que le péché de Judas, c'est quand même le péché le plus grave qu'on puisse commettre, aller directement vendre notre Seigneur, comme il l'a fait. Et donc, si Judas n'est pas en enfer, donc, Bergoglio ne le dit pas, il ne dit pas qu'il n'y a pas d'enfer, mais la conséquence logique, si Judas n'est pas en enfer, c'est qu'il n'y a pas d'enfer.
Oui, ça veut dire aussi que ceux qui se suicident vont au paradis.
Voilà, il n'y a pas d'enfer. Mais c'est ce qu'ils disent maintenant. Ouais. Dans tous les enterrements modernes dans l'église de Vatican II, et c'est ça. Mais mes bien chers amis, on est là tous ensemble réunis de la dépouille mortelle de notre ami, très cher, pour fêter son entrée au paradis. En gros, c'est ça. On n'en sait strictement rien. Il ne faut pas oublier que notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Large est la voie qui mène à la présomption, à la perdition, nombreux sont ceux qui l'apprennent. » Qui l'apprennent, et étroite et resserrée, la voie qui mène à la vie éternelle, et combien peu nombreux sont ceux qui l'apprennent. Donc, c'est gravissime, parce que il faut bien garder les deux choses. Mais ceci dit, dans la tradition cédévacantiste, il y a une tendance, une espèce de mépris de la miséricorde, qui est dangereuse. Et là, je cite cette phrase, c'est vraiment une des plus belles phrases.
Ça ne peut servir pas de l'orgueil.
C'est un orgueil, c'est ça, exactement ça. C'est de l'orgueil, une espèce de mépris de la miséricorde. Et c'est ça qui a fait tomber des grands, grands docteurs. Hein. Par exemple, Tertullien est tombé comme ça. Tertullien est certainement un des plus grands docteurs de l'Église. Hein. Pas n'importe qui, enfin, docteur, oui, père de l'Église même. Il est toujours considéré comme père de l'Église, pas docteur, père de l'Église. Mais il est tombé dans le donatisme, une espèce de du rigorisme. Un peu à jansénisme avant la lettre, quoi, avant l'époque. Et il est mort comme ça. Saint-Cyprien a failli tomber là-dedans aussi. Il est tombé d'ailleurs au début. Saint-Cyprien, au début, tout à fait au début, était évêque de Carthage. Saint-Cyprien, c'est la grande époque, c'est la grande époque des pères de l'Église, encore, hein, lui, les saints. Parce qu'heureusement, il s'est rattrapé aux branches. Mais au début, il a été tenté de refuser l'absolution au lapsi, c'est-à-dire à ceux qui étaient tombés. Qui avait été pris par la maréchaussée romaine et qui avait, devant les affres des martyrs, avait apostasié. Bon. Et Saint-Cyprien, au début, disait qu'il ne fallait pas leur pardonner. Et il allait même jusqu'à dire, certains allaient même jusqu'à dire, Saint-Cyprien, au début, l'avait dit, que pratiquement, il fallait les rebaptiser. Ben non, l'Église a bien mis les choses au point. Non, il est baptisé, même s'il a commis des péchés très graves après. Bon, de faiblir comme ça, c'est grave, mais il est toujours baptisé. Il faut pardonner le pécheur. Et c'est comme ça que, malheureusement, Tertullien est mort en dehors de l'Église. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Dieu. Et Dieu, au moment de la mort, on ne sait pas trop, parce que Tertullien, quand même, fait un bien énorme par la haute valeur de ses traités de théologie. Tertullien comme un des plus grands pères de l'Église. Hein. Origène, c'est pareil.
Origène. Il est mort comment,
hein?
Il est mort comment?
Tertullien.
Ouais.
Mais il est mort, sa belle mort. Il n'est pas mort en martyr, mais il est mort dans le donatisme.
Donc dans
une hérésie, ouais. C'est un espèce de rigorisme, quoi, de refuser, c'est ça, refuser le miséricorde. Bon, Origène aussi était docteur, un des plus grands docteurs de l'Église. Saint Thomas d'Aquin, pas de docteur, père de l'Église. Saint Thomas d'Aquin cite très souvent Origène. Mais Origène, alors lui est tombé dans d'autres erreurs. Origène est tombé dans le, il croyait à la préexistence des âmes. Il est tombé dans le millénarisme et des erreurs comme ça. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il est toujours un des plus grands pères de l'Église. Comment faire attention, vous voyez, ça montre que si on comprend mal la miséricorde du monde, on peut faire des grosses bêtises. Oui.
Est-ce que ces erreurs empêchent la charité de divine?
Exactement. Ouais. Parce que ça empêche la miséricorde. C'est pour ça que cette phrase est magnifique de saint Thomas, là. Il convient mieux à Dieu de faire miséricorde et de pardonner que de punir. C'est que Dieu, dans sa nature, préfère pardonner que punir. Mais attention, là, il ne faut pas changer cette phrase, parce que Bergoglio et ses bouffons avec lui, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent que de la miséricorde à longueur de journée. Il faut pardonner aux pécheurs. Alors, c'est pour ça qu'on accepte tous les migrants qui sont en train de détruire complètement l'Europe chrétienne, ou ce qu'il en reste de l'Europe chrétienne. Bon, le bon Dieu ne demande pas de pardonner aux pécheurs non repentants. Hein, ça serait ridicule. C'est exactement ce que nous demande Bergoglio, de pardonner aux pécheurs non repentants. Il faut pardonner à tous les pécheurs, même s'ils continuent de pécher. Attendez. Hein, si une maman constate que son fils de 10 ans pique à 1 euro tous les matins dans son portefeuille, elle lui fait une remarque, et s'il continue de le faire, elle ne va pas lui pardonner. Et elle va lui pardonner quand il a arrêté de pécher, mais pas quand il continue de voler tous les matins une pièce d'un euro dans le portefeuille de sa mère. Oui. Donc, si dans le livre de Breton, Pierre Le Breton, il note intéressant, « Pécher, dit-il, avec l'espérance d'obtenir un jour le pardon de sa faute, moyennant le repentir et le ferme propos, n'est pas la présomption. Hein. » Au contraire, cette disposition diminue le péché en sent qu'elle suppose une volonté moins attachée au mal. Si vous voulez, c'est le cas de personnes qui se confessent, qui disent « Monsieur l'abbé, je m'accuse de tel péché, mais j'ai très peur parce que je tombe tout le temps et je sais que je vais retomber. Est-ce que je peux recevoir l'absolution ?» Oui, vous pouvez recevoir l'absolution du moment qu'à l'instant précis où vous me parlez, vous êtes vraiment regretté votre péché. Vous allez prendre les moyens pour ne pas retomber. Même si vous savez que malheureusement vous allez peut-être tomber, ben, si vous tombez, vous revenez me voir. Voilà, prenez un rendez-vous tout de suite. Et puis, je vous prends un rendez-vous demain matin, hein, parce qu'à tous les coups, je vais retomber. Il faut se battre, continuer de se battre. Et certainement, la dernière des choses à faire pour le prêtre, c'est refuser de pardonner à des gens comme ça. Hein. Ça serait un crime très grave contre l'autorité du prêtre, justement, qui doit pardonner, on doit pardonner aux pécheurs repentants. Mais on ne peut pas pardonner aux pécheurs qui ne regrettent pas ses péchés, d'accord? Et donc, il dit bien, donc, la présomption est un péché moindre que le désespoir, dans le sens que la présomption est moins dangereuse que le désespoir. Le désespoir entraîne plus de conséquences graves que la présomption. Article 3. La présomption est-elle plus opposée à la crainte qu'à l'espérance? La présomption, sans doute, est opposée à la crainte et surtout à la crainte servile. La crainte servile, c'est quoi? La crainte servile, c'est la crainte de l'esclave, si vous voulez, du chien par rapport au bâton de son maître ou de l'esclave. Une crainte servile, ça ne vaut rien. C'est en dessous de la crainte imparfaite. La crainte filiale, c'est la crainte parfaite, c'est-à-dire la contrition. La crainte filiale correspond à la contrition parfaite. Hein? Crainte filiale, c'est ne pas pécher par amour de Dieu. Bon. Crainte servile, crainte imparfaite, c'est ne pas pécher par peur de l'enfer. Bon. Crainte servile, c'est en dessous encore, comme degré, c'est je ne pêche pas parce que je crains le châtiment, mais je garde l'intention de pécher. Et c'est pas, il faut comprendre la différence entre crainte servile et crainte imparfaite. Crainte imparfaite ou contrition imparfaite, j'ai peur de tomber en enfer, donc je ne commets pas le péché parce que je ne veux pas tomber en enfer. Bon. Et je ne veux plus pécher, et le motif qui m'empêche de pécher, c'est la crainte de l'enfer. Crainte servile, contrition servile, je ne pêche pas parce qu'il y a l'enfer, mais si je pouvais pêcher, je pêcherais, continuerais de le faire. Donc il y a, chez la contrition servile ou la crainte servile, il y a la volonté de pécher, qu'il n'y a pas dans la crainte imparfaite.
C'est pas du péché, même on ne peut pas, mais on voilà.
Alors, c'est pour ça que l'Église enseigne qu'on peut confesser quelqu'un qui a une contrition parfaite, mais pas une personne qui a une contrition servile. Hein? Donc la présomption, dit saint Thomas, est opposée à la crainte, surtout à la crainte servile, qui a pour objet les châtiments divins, dont le présomptueux espère la remise, mais la fausse ressemblance qu'elle a avec l'espérance montre qu'elle est plus directement opposée à cette dernière. Donc elle implique le dérèglement à l'égard de Dieu. Donc c'est une faute dans le jugement qu'on doit avoir sur Dieu. D'accord ? Alors, quatrième article, la présomption vient-elle de la vaine gloire ? Bon, et en fait, si vous voulez, en gros, la vaine gloire, c'est l'orgueil, hein, c'est pareil. Il y a deux sortes de présomptueux, dit-il. Les uns, pleins de confiance en leur propre vertu, entreprennent comme possible ce qui la dépasse. La présomption provient de la vaine gloire. Ils recherchent surtout ce qui excite l'admiration par la nouveauté. Et ça, c'est intéressant. Saint Thomas dit bien que l'attraction par la nouveauté, l'attirance vers la nouveauté entraîne la vaine gloire. Vous voyez ? Et c'est intéressant de voir que Saint Pédis, je vous ai souvent dit, Saint Pédis dans son encyclique Pachandi en 1907, donne comme une des causes du modernisme, avec l'ignorance et l'orgueil, l'amour des nouveautés. D'accord? La présomption des nouveautés, dit Saint Grégoire, est fille de la vaine gloire. D'accord? Donc, première sorte de présomption, c'est ce qu'avait dit Saint Thomas en l'article 1. Espérance en notre propre vertu, c'est la présomption. Donc, cette présomption provient de la vaine gloire, donc c'est une conséquence de l'orgueil. Bon. Deuxième présomption. S'appuyant d'une manière déréglée sur la puissance ou sur la miséricorde de Dieu, espère la gloire sans mérite et le pardon sans repentir. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, Saint Thomas se répète un peu, et en fait, compte, là, c'est les péchés contre le Saint-Esprit. Cette confiance présomptueuse paraît provenir directement de l'orgueil. En fait, c'est pour ça que le titre de l'article, la présomption vint-elle de la vaine gloire. La réponse, c'est que dans les deux sortes de présomption, soit la présomption qui consiste à trop compter sur nous-mêmes, soit la présomption qui consiste à trop compter sur Dieu, dans les deux cas, ça vient d'orgueil. Donc l'orgueil donne un cœur présomptueux. Les hommes de cette espèce, dit saint Thomas, ont une idée si avantageuse d'eux-mêmes qu'ils se persuadent que Dieu ne les punira pas ou ne les exclura pas du ciel pour leurs péchés. Donc une des phrases qu'on utilise pour ça, une phrase de l'Écriture sainte d'ailleurs, c'est qu'on finit par boire l'iniquité comme l'eau. D'accord? Boire l'iniquité comme l'eau. C'est-à-dire qu'à force de tomber dans la présomption, on finit par détruire complètement la miséricorde du bon Dieu. Parce qu'on voit la miséricorde partout où là, il ne faut pas la voir, parce qu'on coupe la miséricorde de la justice. Et couper la miséricorde de la justice, pour moi, c'est le crime numéro un de Bergoglio. Il coupe la miséricorde de la justice. Monseigneur Lefebvre nous le disait sous une autre forme, il nous disait que le péché le plus grave de Vatican II, c'est la destruction de la crainte de Dieu. Et c'est exactement ce que fait Bergoglio. Bergoglio détruit la crainte de Dieu. Il détruit la crainte de Dieu. À force de rabaisser Dieu au niveau des hommes, il divinise les hommes ou il humanise Dieu, comme vous voulez, mais en fait, il détruit complètement la miséricorde, la véritable miséricorde. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est le crime, hein, crime numéro 1 de Vatican II. Alors rapidement la question 22 pour terminer ce traité sur l'espérance. Donc question 22. Donc je rappelle que l'espérance, traité sur l'espérance, ça va des questions 17 à 22. La question 22, on va le faire rapidement. Des préceptes de l'espérance et de la crainte. Donc première question. Devait-il y avoir dans la loi ancienne, donc l'Ancien Testament, quelques préceptes concernant l'espérance? La réponse est oui. Donc il va citer, par exemple, les psaumes. On trouve le psaume 61, verset 9. Je crois que c'est ça. C'est ça. Espérez au Seigneur, vous tous qui composez l'assemblée de son peuple. Donc le bon Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, parler de l'espérance, justement, l'espérance en un Messie qui était à venir. Donc, c'est plus difficile à pratiquer que pour nous l'espérance en un Messie qui est déjà venu. D'accord? L'autorité de Dieu seul pouvait nous porter par promesse, par avertissement, par précepte, par l'espérance des biens surnaturels. Alors, est-il nécessaire, article 2 de la question 22, est-il nécessaire d'établir quelques préceptes touchant la crainte? Or, la réponse est toute simple. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Donc, la crainte est l'objet d'un précepte. La crainte filiale, elle est ordonnée dans la loi ancienne, comme la charité elle-même, l'une et l'autre, conduisant aux actes extérieurs prescrits par le décalogue. Donc, la crainte filiale, ça correspond à la charité parfaite, à la contrition parfaite, plus directement. D'accord? Donc, je pense que ces dernières questions, du traité sur l'espérance sont très importantes pour nous faire comprendre, justement. Je pense que la partie la plus importante, c'est de faire comprendre aux gens, justement, que le désespoir provient pas simplement de la paresse, mais aussi de la luxure. Ensuite, bien comprendre que le point particulier de ce désespoir, c'est le dégoût. Donc, rappelez-vous ce qu'expliquait bien saint Thomas, la tristesse entraîne le désespoir entraîne le dégoût, et le dégoût entraîne le dégoût de la prière d'abord, puis le dégoût des sacrements. Donc faire extrêmement attention pour nous, et aussi pour nos enfants bien sûr, faire extrêmement attention justement à cette tristesse de la prière. Dès qu'on commence à voir dans nos âmes une tristesse, un dégoût de la prière, un dégoût des sacrements, alors là, ça sent, on peut s'engouler à... à planer. Bon, on va arrêter là parce qu'on a terminé donc l'espérance. Donc, la prochaine fois, alors attendez, aujourd'hui on est combien? On est 8, donc prochaine fois, d'ici Dieu, sera le 15. Donc, on commencera la prochaine fois le traité sur la charité. Donc, question 23, question 46. C'est un traité très important. On voit bien que on progresse, si vous voulez, par les différentes vertus. D'abord la foi, puis l'espérance, puis la charité. Bon, on va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
priez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour
nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.